Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Plat au micro, Nicolas Fatman à la technique. Voilà, je suis arrivé sous le soleil, hein, il n'y avait plus de nuages. Dame Nature m'a permis de goûter un peu. Je vois Nicolas qui fait sa prière là-bas. Ça t'a manqué ce matin le soleil, Nicolas?
Ah oui, tellement. En plus qu'hier, j'ai fait une longue marche dans la pluie, ça me tentait tellement pas ce matin.
Oh zut! Merci Nicolas. Alors, on va commencer l'émission aujourd'hui avec Stéphane Baudry qui est quelque part là-bas. Il va nous le dire, il va nous parler du Fort George, ou bien le Fort George, ou bien George en anglais, je ne sais pas, il va nous le dire. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Marc-André Lettre, qui est l'adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l'îlot des Palais, pour nous parler des 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar. Waouh, 100 ans de Québec, vie nocturne, 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar. Alors, qui est peut-être mieux placé que lui? Il est adjoint à la direction de la Société du patrimoine, Marc-André Lettre, en deuxième partie d'émission. Alors, on parle tout de suite avec Stéphane. Il m'entend bien, hein? Il m'entend, non?
Bonjour,
bonjour Stéphane Baudry.
Ça va bien?
Oui, je vais bien, merci. Et toi?
Ça va très bien, merci.
Ok, alors je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner la liaison? Ben, ça fonctionne. Alors, dis-nous, tu nous as choisi le Fort George. Où tu te trouves actuellement ou bien tu es déjà parti?
Je suis déjà parti. On a passé quelques semaines à Niagara. Là, présentement, on est à Toronto. Pour découvrir de nouvelles, de nouveaux beaux endroits.
Oh, quelques heures, quelques jours au Niagara.
Oui.
Voilà, et puis maintenant, à Toronto.
Oui, mais Niagara, c'est vraiment intéressant parce que j'ai découvert la belle ville de Niagara-on-the-Lake.
Il y a
une ville de 18 000 personnes.
Oui.
C'est sur la bord du lac Ontario et jusqu'à l'embouchure avec la rivière Niagara.
Est-ce que tu pourrais bouger un peu, là, en tentant un peu...
Okay.
Est-ce que tu pourrais te déplacer un peu, en tentant un peu en entrecoupé, là?
Mm. Ah, OK. D'accord. Mm. Juste avoir un peu. Mm. Mais c'est ça. Fait que c'était la belle ville de Niagara,
oui.
On the Lake. Et c'était vraiment très, très, très agréable. Est-ce que c'est mieux comme ça maintenant?
Oui, 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 c'est un peu mieux.
OK, d'accord. Alors, c'est ça. C'était... Et quand on se promène dans cette ville-là, on arrive à un moment donné sur les rives du lac Ontario et on aperçoit deux phares de chaque côté de la rivière Niagara.
Deux phares?
Deux phares là, qui datent du 19e siècle.
Oui.
Alors, ça a donné le goût d'aller le visiter. D'aller visiter celui qui est du côté canadien parce que l'autre est du côté américain.
Oui.
Alors, ça se trouve à être justement les deux phares. Il y en avait un qui était du côté des États-Unis.
Oui.
L'autre du côté des Britanniques.
Oui.
Alors, c'est Fort George du côté des Britanniques et du côté américain, c'est le Fort Niagara.
Oui.
Qui avait déjà appartenu aux Britanniques, mais qui avait dû être donné quand il y avait eu un traité de paix entre les Américains et les Britanniques.
Les différentes négociations.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est un point très stratégique parce que tout le commerce qui passait par la rivière Niagara et tout ça,
oui,
se trouvait là, ça amenait au lac Erie. Alors, c'était vraiment, jusqu'à Buffalo, c'était vraiment une place importante.
Oui.
Alors, c'était d'ailleurs le quartier général des forces britanniques du Haut-Canada à l'époque. Éventuellement, par contre, les Américains ont attaqué le fort. Ils ont tout incendié, ils ont tout détruit.
Oui.
Et la ville de Niagara est devenue un champ de bataille. Ça a été quand même, les Américains ont conquis la ville et le fort. Ils l'ont occupé pendant 7 mois jusqu'à temps que les Britanniques le reprennent. Et les Britanniques ont fait la même chose, sont retournés du côté américain et ont brûlé aussi tout ce qu'il y avait là jusqu'à Buffalo.
Oui. Ouais. Quand j'ai lu cette histoire-là, je me suis dit, mais pourquoi les gens pouvaient être si méchants? C'est pas seulement cette époque, ça existe aujourd'hui encore.
C'est la vengeance aussi, tout ça. Même quand les Américains se sont retirés du fort,
oui,
ils ont décidé d'incendier la ville de Niagara.
Oui.
Alors, ça a fait vraiment... Et le général a fait ça de son propre chef, et c'était pas une ordre de son gouvernement. Alors, même son propre gouvernement américain s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a été congédié à son propre côté.
Oui, oui, oui.
Alors, quand même, il y a des choses que même en temps de guerre ne se font pas.
Qui se font pas, voilà.
C'est ça. Alors, c'est ça. Au fil des années 1820, le fort a été abandonné par les Britanniques car il tombe en ruine.
Mm-hmm.
Et en 1930, ils ont reconstruit le fort tel qu'il était avant la guerre de 1812. Mais la poudrière, qui est le bâtiment, qui est vraiment comme creusé dans le sol, lui, existait vraiment en 1802. Alors, c'est vraiment un beau morceau d'histoire.
Oui.
Et ce qui est quand même intéressant, c'est de faire, c'est comme un grand espace ceinturé d'une autre palissade où il y a plusieurs bâtiments qu'on peut visiter, que ce soit les quartiers des officiers, la poudrière, l'atelier des artificiers, etc. On peut même assister à une démonstration de tir avec des armes d'époque. C'est okay. quand même très intéressant. C'est bruyant, mais très intéressant. Mmh. Et c'est au 51, l'adresse, c'est le 51 Queens Parade à Niagara-on-the-Lake, en Ontario.
OK.
Et de Toronto, c'est la Queen Elizabeth Way en voiture. On suit les indications vers Niagara-on-the-Lake. C'est quand même 90 minutes de Toronto.
Une heure et demie, quoi.
C'est ça.
Une heure et demie de Toronto. Oui, c'est pas...
Ça se fait bien. C'est l'autoroute tout le long, mais c'est quand même une bonne distance.
Est-ce que quand on vient de Montréal, il faut forcément passer par Toronto ou bien on peut aller directement?
Oui, on peut pas. Ben, je veux dire, normalement, je dirais, avant COVID, on pouvait comme traverser des fois du côté américain.
Oui.
Et passer par Buffalo. Et ça se faisait quand même bien. Mm-hmm. Mais là, présentement, il faut... c'est pas mal plus simple de passer par Toronto puis oui. ensuite de revirer par le sud.
Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Alors, pourquoi tu nous conseilles ça?
Bien, c'est quand même intéressant de se promener d'un bâtiment à l'autre. Il y a plusieurs personnages qui nous accueillent, qui nous expliquent la vie de l'époque au fort. Alors, on rentre, disons, dans la place des cuisines.
Oui.
On a des cuisiniers, bien, à l'époque, qui commencent à nous expliquer comment ça fonctionnait. Mm-hmm. Même chose quand on arrive dans les quartiers des soldats. On voit même le nom de chaque soldat. Et c'est vraiment le nom des soldats qui étaient là pour vraiment au fort à ce moment-là.
Encore?
Avec leur couchette.
Tout est... Ah bon?
Oui.
Donc, c'est vraiment historique. Hein? C'est un lieu historique.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est vraiment historique. C'est quand même intéressant. Du fort, on voit l'autre fort. Mmh. On voit à quel point, quand il y avait les gros galions qui se promenaient entre les deux, qui tiraient du canon, on peut vraiment ressentir qu'est-ce que les gens se sentaient là.
Oui.
On voit à quel point la vie était rude pour les militaires et aussi pour la milice de la ville de Niagara.
Surtout à cette époque.
Oui, mais comme il expliquait, c'est que les soldats, eux autres, les Britanniques étaient en rouge pour pas, par accident, se tirer dessus entre eux autres. Mais la milice, eux, tu sais, les citoyens qui étaient dans la ville, qui allaient les aider pour se battre, eux autres n'étaient pas identifiés comme ça. Alors, ils étaient toujours en danger, autant de leurs ennemis que de leurs amis. C'était comme ça.
OK. Pourquoi on ne leur donnait pas la tenue rouge comme eux pour qu'ils puissent être identifiés?
Parce que c'était pas des soldats.
Ah, ben d'accord. OK.
Ouais. C'est quand tu comprends, on peut se promener dans les, comme je disais, au niveau des dortoirs, le mess des officiers, le poste de garde. On a même la vaisselle d'un repas qu'il y a eu avec les ossements de nourriture du repas qu'il y a eu à ce moment-là.
C'est pas vrai.
Au début des années 1800.
Oui.
Alors, puis même identifié, même c'est les ossements de quoi? Le poulet, le faisan, le bœuf et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant comme ça. Et aussi, le tir. Il y avait plusieurs armes différentes et il expliquait pourquoi, qu'est-ce qu'était une rifle, une carabine, un mousquet. Il faisait des démonstrations de tir des deux pour montrer la différence.
Ah bon?
Oui. Alors, c'était évidemment des tirs à blanc, mais on entendait quand même le bruit différent. C'était des. Ils tiraient comme des balles de mousse, là. Mais on entendait quand même on ressentait quand même ce que ça devait faire d'entendre ce tir-là.
Les soldats, pour ne pas te couper, tu vas reprendre. Les soldats d'avant, je les trouve plus courageux que ceux de maintenant. C'est parce qu'il n'y avait pas d'armes sophistiquées. C'était la plupart du temps du corps à corps.
Oui, d'ailleurs, ils nous ont montré des baïonnettes. C'est impressionnant aussi, là.
Oui.
Oui, et c'était dans un genre aussi, il expliquait que quand les gens se faisaient blesser à un membre, ben, ils ne prenaient pas de chance et ils amputaient. Alors, il n'essayait pas de guérir le membre. Alors, c'était vraiment un grand risque pour tout le monde qui allait sur le champ de bataille.
Ouais.
Mais il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de choses. C'est sûr que c'était des militaires, mais c'est aussi beaucoup sur la vie qu'il y avait dans ce temps-là. Mm-hmm. Et c'est une belle expérience en famille parce que, évidemment, c'est des grands espaces ouverts entre les bâtiments.
Oui.
Alors, les enfants peuvent courir, on voit même des gros canons, comment ils transportaient les canons. Il y a des palissades, on peut se promener, voir tout le long du mur avec les canons.
Oui.
Alors, c'est quand même vraiment intéressant. Et, comme je dis, la très belle ville de Niagara-on-the-Lake, c'est juste à côté. D'ailleurs, des fois, ça vaut la peine de stationner au stationnement du phare et d'aller se promener après ça dans la ville de Niagara parce que le stationnement du phare est moins dispendieux que le stationnement dans la ville de Niagara-on-the-Lake.
Pourquoi? Quelle est cette différence de
Mais c'est vraiment parce que tarification, c'est un gouvernemental fédéral. Ça fait partie de Parc Canada, le Fort George, comme le Fort Chambly, comme le Parc de Gatineau.
OK, alors, je comprends. Je comprends, oui.
Alors, c'est pour ça. Fait que c'est quand même seulement à 700-800 mètres de la ville, du centre de la ville. Alors, ça se fait quand même très bien aussi. C'est le site web, pour avoir plus d'informations, c'est pc.gc.ca
oui.
/fr/LHN-NHS/ON /4George, tout en un mot. George, pas de S.
OK.
Alors, c'est comme ça qu'on peut avoir. On peut aussi aller sur le site carrément de Parc Canada et choisir trouver 4George là-dessus.
Oui, oui, oui.
C'est ça. Puis jusqu'au 31 octobre, c'est de 10h à 17h. C'est ouvert de 10h à 17h, du mercredi au dimanche.
Lundi, mardi, c'est fermé.
Oui.
OK. Ça. Combien ça coûte, combien ça coûte tout ça?
Pour un adulte, c'est 12,50.
Oui.
Pour les aînés, c'est 10,75. Mais si on a 17 ans et moins, c'est gratuit.
Il y a des deux...
Alors, une autre bonne raison pour dire que c'est une belle activité à faire en famille, parce que si c'est un adulte avec plein d'enfants,
oui.
Ça devient intéressant.
OK. J'ai lu quelque part dans tes documents là, que si on a la carte d'entrée découverte de Parc Canada, c'est gratuit. Oui.
Exactement. Puis ça permet comme ça permet d'aller au Fort Chambly, ça permet d'aller au parc de Gatineau, ça permet d'aller à Banff, qui est un peu plus loin. Mais il y a plusieurs parcs comme ça fédéraux, il y a plusieurs installations fédérales
oui.
qu'on peut visiter avec cette carte.
Avec cette carte-là, ouais. avec un abonnement mensuel, annuel quoi, je veux dire.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment intéressant parce que le Fort Chambly, je connaissais, j'ai déjà fait une chronique dessus. Mais au niveau de le Fort George, c'est vraiment, je dirais, par accident que j'ai découvert. Et ça a été vraiment une belle découverte. C'est très intéressant parce que ça parle de la guerre de 1812
oui.
avec les Américains quand ils ont essayé de reconquérir le Canada. Ils voulaient vraiment sortir les Britanniques de toute l'Amérique du Nord.
Non, mais ils sont arrivés à Montréal même. Et c'est grâce aux mercenaires allemands que le Canada n'est pas devenu un État américain.
Exactement.
Ouais.
Oui, alors il y a eu beaucoup, mais c'est pas un conflit qu'on parle beaucoup. Alors,
Non, les gens préfèrent ne pas en parler. Ces Allemands, ouais, parce qu'à l'époque, les Anglais ne voulaient plus se battre contre leurs cousins américains, ils les appellent leurs cousins. Alors, comme la famille royale a des relations aussi en Allemagne, ils viennent de l'Allemagne de toutes les façons, ils sont allés demander de l'aide à des milliers de soldats qu'on appelle les mercenaires allemands qui sont venus pour libérer le Canada. Et beaucoup sont restés et beaucoup sont repartis aussi après la guerre. Sinon, le Canada ne serait pas le Canada, ce seraient les États-Unis d'Amérique aussi.
Non, puis c'est ça. Puis les Britanniques, au début, se battaient pas avec... Pour défendre, par exemple, le Fort George,
oui.
qui était très, genre un millier, puis il y avait 7000 soldats du côté américain.
Oui.
Alors, quand ils sont arrivés, ils ont envoyé comme des boulets incendiaires dans le fort. C'est un fort en bois. On imagine ce qui est arrivé.
Mm-hmm.
Le fort a tout brûlé. Alors, les soldats ont dû sortir de leur fortification et se sont fait capturer à ce moment-là.
Oui.
Mais après ça, ils ont repris des forces, ils ont eu de l'aide et ils ont réussi à reprendre ça et à reprendre, disons, on va dire, la frontière canadienne.
Ça me fait penser à ce que la Russie fait avec l'Ukraine actuellement, à Mariupol, ce qui était caché dans les bunkers de la compagnie.
Ouais.
Voilà, quelque chose comme ça de ces gens. Mais c'est vrai, cette histoire-là n'est pas... Ce côté-là, beaucoup de gens ne le savent pas. Les Américains, ils sont arrivés. Même ils étaient à Montréal. C'est les mercenaires allemands qui ont pu les chasser, qui ont pu les mettre en dehors de Montréal. Sinon, si ça allait être les États-Unis d'Amérique aussi.
Mais la Fort Chambly a été attaquée par les Américains.
Oui, aussi.
Ouais.
Voilà, faut dire merci. Alors,
c'est des morceaux d'histoire qui sont
camouflés quelque part. On n'en parle pas, on n'enseigne pas dans les écoles. Les gens, sauf les érudits, les gens qui aiment l'histoire, qui vont fouiller, qui tombent sur ça, quoi, comme toi.
Oui, mais c'est vraiment intéressant de connaître ces bouts-là de notre histoire, parce que ça explique aussi souvent des choses. Pourquoi? Parce que, comme par exemple, la ville de Toronto, à ce moment-là, s'appelait York.
Oui.
Et puis Niagara et Toronto, c'était comme deux capitales.
Oui.
Et Niagara, pendant un bout de temps, s'appelait Newark.
Ouais.
Et c'est intéressant maintenant qu'on voit North York à Toronto, mais c'est parce que c'était vraiment la partie nord de la ville de York.
Oui, oui.
Mais qui a changé de nom.
Là, je comprends pour celui qui ne connaît pas cette histoire, c'est pourquoi la partie anglophone canadienne est très américanisée.
Oui.
Ouais, c'est ça, ça vient de là aussi.
Mm-hmm.
Ils ont l'influence là-bas encore, ça, il faut le dire. Alors, pour conclure,
ils ont
Stéphane...
Mais, oui. Mais, ils ont l'influence, mais en même temps, ils sont quand même très attachés aux racines au niveau de la couronne britannique et tout.
Oh oui, bon, on n'a pas le choix.
Ouais, c'est ça. Mais en conclusion, comme je dirais, oui. Même si on associe souvent Niagara aux chutes et aussi aux grands vignobles, parce qu'il y a évidemment de très beaux vignobles dans la région de Niagara-on-the-Lake,
oui.
Il y a vraiment... La ville de Niagara-on-the-Lake et sa région, c'est vraiment un trésor à découvrir, c'est riche d'histoire et ça vaut vraiment le détour. Ça vaut vraiment la peine de faire autre chose que juste des chutes et d'aller découvrir ça.
Oui, parce que comme tu le dis, Stéphane, tout le temps, quand on dit Niagara, c'est les chutes. C'est les chutes.
Oui.
Oui, on parle rien, alors que c'est un lieu historique.
Oui.
Ouais, c'est rempli d'affaires, d'histoire, pardon, mais ouais, c'est un lieu historique. Oui. Ouais.
La ville de Niagara-on-the-Lake, elle garde son cachet de cette époque-là. C'est vraiment intéressant, on se promène, c'est vraiment, quand on se promène sur les rues, c'est vraiment comme une vieille ville, un vieux village. L'ambiance est vraiment particulière, l'atmosphère est vraiment particulière. C'est une des plus belles villes que j'ai vues.
Wow!
C'est vraiment beau.
Wow! Niagara-on-the-Lake, un vrai trésor à découvrir.
Oui.
non, le fort, toi, tu nous as fait tellement découvrir des trucs, des choses, des parcs, des mentions ici. Là, je pense bien que si je te montre ma liste de tout ce que tu nous as fait, je peux pas tout visiter, ça c'est clair. Mais je vais faire des choix. Mais quand je sais que je vais faire des choix. De Montréal, bon, je vais me taper au moins 6 à 7 heures de route, au moins, minimum.
Ben oui. Et de toute façon, je vais vous parler la semaine prochaine d'un château de contes de fées en plein milieu de Toronto. Et vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de choses à découvrir.
Un château de contes de fées en plein centre de la ville de Toronto.
Oui.
Alors là, toi, tu mérites la médaille, quoi. Alors, merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
Tu seras en quoi, Toronto, ou bien tu seras avec nous, avec moi en studio?
En studio la semaine prochaine.
Merci beaucoup à toi. Bon séjour et tu nous reviens en forme.
Merci, bonne semaine.
Merci à toi aussi, Stéphane.
Bye.
Bye.
Why do you wake me so, sweet nightingale? You're telling me something I don't know. It's 3:15. Your singing driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah, morning is coming. Morning is on its way. Morning is coming. It's Revelation Day. Sweet nightingale, we'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say.
Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah.
Morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
It's Revelation Day.
Oh, nightingale. You broke a dream or I don't live on my own. Oh, nightingale, I look around but there's nobody home. Rouse yourself and get out of bed.
Uh-huh.
Drag a comb across your sleepy head. Clean your teeth and wash your face. Look like you're a member of the human race.
Wake up, it's a beautiful day. Myself, wake up, don't you hear what I say? 'Cause I'll be rocking in my shoes to the sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. Now miss the morning time back to evening time. This a message when me used to uplift mankind. Whether you know of the bubble or you know of the wine, enjoy, it's a beautiful time.
Oh, morning is coming.
Morning is coming.
Morning is on its way.
It's on its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
Revelation Day.
Morning is coming.
is on its way.
On its way.
Morning is coming. It's Revelation Day.
Shaggy avec la complicité de Sting, Morning is Coming. Voilà, ce tube qui est sorti il y a quelques années. Voilà, je vais parler un peu de la journée mondiale de l'océan, c'est aujourd'hui. J'ai dit 8 juin. Voilà, la journée mondiale de l'océan, je dis bien. Et le thème, c'est quoi? Revitaliser les océans par l'action collective. Cette année, je vais parler de toutes les journées mondiales. C'est ce qu'à la fin de 2022, ça c'est clair. Voilà, c'est comme la journée mondial de la bicyclette, comme on avait parlé la semaine passée. Il y a une auditrice qui m'a texté pour me dire, mais au fait, elle n'a jamais entendu parler de la journée mondiale de la bicyclette. Et j'ai dit, ouais, ça tombe bien. Alors, revitaliser les océans par l'action collective. L'océan couvre plus de 70% de notre planète, de la planète Terre. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre source de vie. Voilà, les océans et les mers soutenant la subsistance de l'humanité entière et celle de tous les autres organismes sur Terre. Voilà. Alors, arrêtons de jeter de n'importe quoi là-dedans, dans les océans, dans les mers. Elle produit au moins 50% de l'oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Alors, quand on entend ça, et puis bon, et puis quand on voit ce que les gens font dans les océans, on se dit, vraiment, on n'est pas conscient. Nous, les êtres humains, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et notamment aussi la principale source de protéines pour plus d'un milliard de personnes dans le monde. Oui, c'est ça. Ouais. La source principale de protéines. Ouais, c'est pas seulement... Oui, oui, bien sûr. Les poissons et autres, comment ils sont dans les océans. Ouais. L'océan, voilà. C'est la source, c'est aussi la clé de notre économie. Environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici 2030. Je dis bien 40 millions de personnes employées. Allez-y sur le site de l'ONU, hein, un.org, vous allez voir toutes ces informations là-bas. Voilà, donc, en tant qu'être humain, on a besoin de l'océan pour survivre. Et l'océan a aujourd'hui, plus que jamais auparavant, besoin d'un soutien accru pour continuer à remplir ses fonctions dont toute la planète dépend. Alors, il faut qu'on fasse... Avec 90% des populations de gros poissons déjà épuisées et 50% des récifs coralliens détruits, oui, nous prenons plus de l'océan que ce qui peut être reconstitué. Qu'est-ce qu'on lui donne? On ne fait que les vider, les océans, les mers, les poissons, les gros bateaux de pêche, même les petits pêcheurs. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Ouais. Donc, pour protéger et préserver l'océan et tout ce qu'il soutient, nous devons donc créer un nouvel équilibre ancré dans une véritable compréhension de l'océan et de la façon dont l'humanité y est liée. Nous devons établir une relation avec l'océan qui soit réellement inclusive, innovante et éclairée par les leçons du passé. Revitaliser les océans par l'action collective, c'est le thème de cette année. Aujourd'hui, mercredi 8 juin 2022.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, un peu de football, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aller au Qatar pour la Coupe du Monde de foot pour les uns, soccer pour les autres. Oui, ils ne vont pas aller au Qatar 2022, c'est en novembre. Là, l'Ukraine qui a été éliminée par... voilà, c'est je me suis dit, bon, il faut que j'en parle. Le pays de Galles qui participe, qui va participer à la prochaine Coupe du Monde de foot pour la première fois en 64 ans. En 64. Et le Canada, c'est combien là? Après 36 ans d'absence, non? Ouais. Je parle de ça parce que je vais tomber aussi sur le Canada. Il y a du rififi entre les joueurs et la Fédération canadienne de soccer, de football. Voilà. Ils veulent donner 30% des 9 millions qu'ils vont recevoir aux joueurs. Les joueurs disent non, on veut 40%. Voilà. Si vous n'êtes jamais allé là grâce à vous, grâce à nous, on s'en va là-bas après 36 ans ou bien, je ne sais pas, après 50 ans. Les 9 millions qu'on va vous allez recevoir là, c'est grâce à nous là. Quand ils ont joué sous la neige là-bas, Edmonton là. les responsables là étaient dans leur maison bien chauffée. Hein. Alors, parlons de l'Ukraine d'abord. Non, moi, je souhaitais la victoire à l'Ukraine pour essayer de remonter un peu le moral de la population ukrainienne. Mais malheureusement, voilà, le foot, c'est comme ça, c'est un sport. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Et en plus, 1-0, un but tout bête. Ouais. C'est un défenseur qui a marqué contre son camp. C'est même pas un joueur du pays des Galles qui a marqué le but. C'est un joueur ukrainien qui a l'autogol. C'est comme ça qu'on appelle dans le football. Il a marqué contre son propre camp, lui. Donner la victoire à ses adversaires. Un coup franc du joueur étoile gallois, Gareth Bale. Donc, le pays de Galles va participer à la Coupe du Monde pour la première fois en 64 ans. Ils ont entamé son tournoi, le premier tournoi contre les États-Unis en novembre au Qatar. Le premier match contre les États-Unis d'Amérique. Tandis que l'Ukraine est entrée déjà chez elle bredouille alors qu'elle tentait d'insulter, d'insuffler de l'espoir à la population confrontée à l'invasion de ce pays par la Russie. Voilà, c'est quelque chose qui... Alors, les joueurs de l'équipe canadienne à couteau tiré avec la Fédération canadienne de football, de soccer. Je les comprends quelque part. Parce que la plupart de ces jeunes gens jouent dans les grandes équipes en Europe. Et en Europe, les jeunes, ces joueurs professionnels qui vont jouer pour leur pays, leur nation, leur équipe nationale, c'est pas des peanuts qu'on leur donne. C'est vraiment des vrais cachets de millions. Ils sont tous des, voilà, ils sont tous des millionnaires. C'est pas des peanuts qu'on leur donne. Donc il est temps que ils prennent position pour l'avenir, la position soit prise pour l'avenir du soccer, du football canadien. Oui. Il faut que ça marche. Ils ont déjà refusé de jouer des matchs amicaux. Ils ne sont pas là à l'entraînement. Je pense bien qu'ils ont récupéré les entraînements hier ou bien aujourd'hui. Ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient plus de transparence de la part de la Fédération canadienne de soccer. Je reviendrai sur ça d'ailleurs. Si vous allez écouter, après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Marc-André Lettre, qui est adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l'îlot des Palais. Oui, voilà, ça c'est comme ça. On va parler des 100 ans de vie nocturne de Québec. Histoire des bars. Merci à l'écoute. À tout de suite.
Vous écoutez Escale 1718 avec Fulgence Blas.
Alors, vous êtes toujours, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute de cette émission, c'est la deuxième partie de l'émission avec mon invité qui est déjà au bout du fil. C'est pas la première fois qu'on le reçoit ici, Marc-Antoine Lettre, qui est l'adjoint à la direction de la Société du patrimoine, mais dis bien de la direction du patrimoine urbain de Québec et de l'îlot des Palais. Voilà. Il est en terrain connu, bien sûr. Bonjour Marc-André. Marc-Antoine, pardon.
Bonjour Monsieur Blas, ça va bien?
Je vais bien. Appelez-moi simplement Fulgence.
Parfait.
Monsieur, là, ça me... Ouh, c'est trop. Marc-Antoine.
Oui.
Quelle est cette histoire de 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar?
Oui, ben en fait, là, c'est vraiment avec plaisir que j'annonce une nouvelle exposition temporaire, 100 ans de vie nocturne, histoire de bar. C'est une exposition immersive. Donc, c'est quoi ça, une exposition immersive?
Oui.
C'est qu'on a pris l'une de nos salles voûtées, hein, parce que je rappelle aux gens qui connaissent pas l'îlot des Palais, c'est un site archéologique. Et nous, en fait, notre espace muséal, elle se trouve dans les vestiges de 300 ans. C'était les voûtes du palais de l'intendant de la Nouvelle-France. Donc, oui. C'est des voûtes en pierre. Là, on aurait l'impression d'être dans un bunker.
Oui.
Et dans l'une de nos voûtes, une de nos plus grandes, là, on plonge la salle dans le noir et on a une projection sur un des grands murs de pierre, justement, qu'on a dans cette salle-là. Et là, en fait, là, c'est une narration, une projection sur moi avec narration qui dure 16 minutes.
Oui.
C'est Raymond Cloutier. Donc, qui fait la narration. Et on parle de, en fait, 100 ans de vie nocturne à Québec. Donc, on fait vraiment une rétrospective chronologique des tavernes là, dans les années 20-30. Hein, c'était un milieu très fermé, réservé aux hommes.
Oui.
Et qui parlait de politique. Et... Donc, c'était un milieu très clos, mais qui a duré assez longtemps là, dans l'histoire, quand on y pense. Hein.
Et après jusqu'au 20e siècle?
En fait, pas interdit.
Les tavernes, je veux dire. Les tavernes.
Ben oui, les tavernes, ça peut encore exister, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus les mêmes conditions.
C'est
là,
pas les mêmes
l'époque.
Conditions,
parce qu'à
voilà.
l'époque, c'était vraiment réservé aux hommes. Là.
Donc, wow.
C'est ça, donc on passe des tavernes. Ensuite, on passe à travers là, les cabarets. Donc, il y avait beaucoup dans le quartier Saint-Roch à Québec, là, la classe ouvrière qui allait dans les tavernes.
Oui.
Puis ça faisait contraste là, avec la Haute-Ville, qui était un peu plus huppée. Donc, avec le château Frontenac, qui tandis que dans les tavernes, justement, les ouvriers s'affairaient autour de leur bière, on avait des cocktails qui se faisaient justement au château Frontenac avec le touriste de luxe. Donc, le touriste qui venait de partout dans le monde, même des États-Unis, c'était la prohibition hein, dans le temps.
Oui.
Donc, on venait au château Frontenac pour justement fêter. Donc, le château Frontenac était vraiment le théâtre là, de cocktails et de soirées mondaines. Donc, on parle de ça aussi. Ensuite, on continue d'avancer dans le temps. On parle des cabarets qu'il y a eu justement comme chez Gérard, là, le très connu chez Gérard, qui était justement sur la rue Saint-Paul, pas très loin de l'îlot des Palais, justement.
Okay.
Ils ont tous accueilli des artistes là, très, très, très connus, là, dont... voyons, excusez-moi, là, celle qui chante... non, rien de rien, je ne regrette rien.
Ah, donc, attends. C'est pas
donc, vraiment, là, des artistes très connus français également. Donc, c'est vraiment des artistes de partout dans le monde qui sont venus chez Gérard. Ensuite, on passe aussi là, aux boîtes à chansons. On est dans les années 60-70. C'était beaucoup plus là, la culture hippie, chansonnier, également Félix Leclerc, Gilles Vigneault. Donc, c'est vraiment là, nos symboles québécois de la chanson française, francophone. Et après ça, là, on avance encore dans le temps. On est dans les fameuses discothèques des années 70-80.
Oui.
Donc là, on connaît bien sûr la Grande Allée hein, avec... le Dagobert, par exemple, qui est une célèbre discothèque.
Donc, Marc-Antoine, si je comprends très bien, donc Québec était beaucoup plus bouillonnante que Montréal.
Ben, je veux pas dire ça.
On peut pas comparer.
Justement, là, il y a une histoire qui m'est arrivée avec justement l'idée de faire l'exposition, puis il me disait que Montréal aussi, là, c'était il y avait le district, là, le Red Light, c'est ça?
Oui, oui.
Je connais un peu moins Montréal, mais c'est ça, on m'a dit que Montréal aussi. Mais là, c'est vraiment un hommage là, qu'on fait au bord de Québec, la vie nocturne à Québec, qui est vraiment unique, là.
Oui, oui, unique en son genre.
Oui, exactement, c'est ça. Puis tu sais, on termine, en fait, là, l'expo avec les microbrasseries qui sont vraiment là importantes hein, de nos jours, les microbrasseries. Et justement, la première microbrasserie à Québec, c'était l'Inox, donc, qui était sur la rue Saint-Paul et maintenant qui se trouve là, sur la Grande Allée.
Oui.
Et bien sûr, on peut pas finir sans mentionner le festival d'été là, qui anime là, les soirées de juillet.
Ça, c'est la crème de la crème, ça. Le festival d'été. Ouais, ouais.
Donc, c'est ça. Ça fait un résumé. Mm-hmm. Et imaginez pendant cette projection-là là, de la musique, la narration, des images d'archives
oui.
qui ont l'air de sortir du mur de pierre, hein, ce qui donne un caractère assez unique
oui.
À notre exposition. Donc, ça, c'est le volet, là, justement, projection. Et on a un volet aussi qui s'appelle les portraits. Parce qu'en fait, Sabrine Grand-Liénard, en 2016, elle avait eu l'idée de faire justement un hommage à tous les gens du métier, les bars, les serveuses, les doormen, les portiers, les DJ, par exemple. Donc, tous les gens du métier des bars. Et elle a fait des interviews, elle a récolté justement là, des témoignages de ces gens-là avec anecdotes. Et elle a fait en fait un recueil là-dessus. Donc, ce recueil-là, il est disponible en partie dans notre exposition. On a des tablettes avec des petits extraits. Puis aussi, on a notre site Internet. En fait, il y a le document complet de Sabrine.
Oui.
Donc, les gens peuvent aller regarder ce document-là qui est disponible. Donc, ça résume notre nouvelle exposition. Et merci.
mais sincèrement, je quand j'écoute tout ça, je me dis « Wow! » Je comprends maintenant l'importance des bars au Québec aussi. Hein. Que ce soit à Montréal ou bien à Québec ou bien à d'autres villes. Parce que c'était des lieux de retrouvailles quelque part et puis surtout les tavernes réservées uniquement aux hommes, les femmes n'avaient pas droit. Bon, ça c'était une autre époque.
Oui.
Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça c'est clair.
Voilà. Non, pas du tout exactement.
Ah voilà, celui qui fait ça, il va se faire lapider là. Voilà.
Exactement, mais tu sais, c'est un lieu de sociabilisation. Toutes les époques ont eu leur lieu de sociabilisation. Puis,
oui.
On voit que ça a changé à travers le 20e siècle. mais ça restait un lieu là, où les gens pouvaient justement laisser aller leur fun.
C'est ça. Effectivement, c'est vrai. Comme certaines personnes qui sont très calmes dans leur pays d'origine, mais quand ils vont en vacances dans le sud, c'est toute une autre manière de se comporter.
Oui, voilà. Oui, absolument.
Un peu comme c'est ça, un parallèle comme ça que je fais. Quoi. Mais est-ce que pour nous retracer un peu l'histoire du lieu des palais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est?
Oui,
parce qu'on tient, tient ça pour acquis, mais non, c'est pas tout le monde qui sait ce que c'est. Ouais.
Ben certainement, mais tu sais, cette thématique-là sort pas de nulle part. C'est pourquoi qu'on parle de cette thématique-là.
Oui.
L'îlot des palais, c'était l'endroit où les intendants de la Nouvelle-France avaient leur palais.
Oui.
Et qui dit palais, dit fête. Hein? Donc, là, dans le temps de l'intendance, il y avait des grands...
Mais c'était la bourgeoisie. Hein.
Ben, c'est ça, exactement. Il y avait des grands jardins, en plus, à côté du palais, donc il devait avoir des soirées là, très festives à l'extérieur aussi, dans les grands jardins de l'intendant. Et c'est ça, ça a été en fait une communication qu'on a eue entre le château Frontenac, qui est un lieu aussi justement là, qui a accueilli le gouverneur, pas directement le château Frontenac, mais le château Saint-Louis, qui est juste en avant du château Frontenac.
Oui.
C'était là où il y avait le gouverneur. Fait que c'était deux lieux justement de la vie bourgeoise. Donc, c'est ça, c'est vraiment une collaboration entre le Château Frontenac, la fondation du Château Frontenac, là, plus précisément, et l'Île des Palais, qui a justement là, créé le concept d'exposition immersive.
Oui.
Et aussi, l'Île des Palais, je rappelle que c'est l'endroit où il y avait la première brasserie en Amérique du Nord, la brasserie Jean Talon. Donc, ça, c'est assez important.
Oui, cette histoire de l'intendance Jean Talon, là. C'est le même Jean Talon qu'on a dans le métro, la rue ici, boulevard Jean Talon, là?
Oui, absolument. Jean Talon, c'est le premier intendant.
Qui est arrivé ici en 1665, là.
C'est ça, exactement. Puis avec des bonnes intentions de développer l'économie et tout. Et la brasserie, c'était justement quelque chose pour développer l'économie, là, en justement exploitant les ressources qu'il y avait, là, avec les récoltes, pardon. Donc, on voulait vraiment transformer les récoltes en bière pour vendre la bière et générer un profit. Et aussi, il y avait aussi les brasseries de Boswell et Dow qui ont occupé l'îlot des Palais, donc de 1852
oui.
à 1968. Donc, la brasserie de Boswell a duré quasiment 100 ans, de 1852 à 1952. Et la brasserie de Dow, qui est un peu plus connue, c'est DOW, hein, si vous vous demandez. La brasserie d'or est très, très connue dans les années 50 et 60. Et elle a été tristement célèbre aussi là, à cause de la maladie des cœurs tigrés qui a affligé justement une vingtaine de personnes qui sont décédées. Et on a accusé la bière d'or d'avoir causé ces décès-là.
Ah bon?
Ça l'a causé.
Ah wow.
Ça a causé la fermeture de la brasserie à Québec à cause de ça.
Oui, oui. Au fait, quand il avait dans mes recherches, je suis allé sur votre site bien d'ailleurs pour voir un peu l'histoire de l'îlot des palais.
Oui.
Des palais, mais je me suis dit, mais il n'avait pas acheté ça à la veuve de Couillard en 68. Et c'était pas pour faire une brasserie, mais il voulait construction navale. Il a commencé avec une brasserie.
Oui, exactement. C'était le premier quartier industriel selon les archéologues. Dans le sens que, vous l'avez bien dit, chantier naval sur le bord de la rivière Saint-Charles, qui est encore juste là, derrière la gare du Palais, mais qui à l'époque était plus proche de l'îlot des Palais, là, du site de l'îlot des Palais. Donc, on a vraiment repoussé les berges au fil des siècles pour justement à l'endroit où elle se trouve actuellement.
Oui.
Mais à l'époque, on était juste à côté de la rivière. Donc, on a besoin de beaucoup d'eau pour faire de la bière. Donc, on avait justement accès à la rivière pour faire la brasserie. On avait aussi la rivière pour le chantier naval.
Oui.
Et on avait aussi l'eau pour faire, en fait, du savon à base de potasse. Donc, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la potasse.
Oui, du savon à base de potasse.
Oui, absolument. La potasse, c'est un résidu de cendre qu'on obtient quand on mélange, en fait, quand on a des cendres, on réduit les végétaux en cendres.
Oui, je sais ce que c'est que la potasse. Oui. On fait du savon partir de ça. Wow.
Oui, absolument. C'était très en demande en France et justement, il y avait une grosse production justement juste ici, là, à côté de l'îlot des Palais.
Wow.
Absolument.
Marc-Antoine, avant de vous laisser partir, je ne vais pas voter pour l'histoire de... Ces 100 ans de vie nocturne, là, au fait.
Oui.
Maman, pourquoi est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent d'aller voir ça? Est-ce que c'est temporaire ou bien c'est Pour combien de temps encore il faut aller voir ces images?
C'est temporaire, mais au moins pour un an, ça je peux être sûr, ça pas deux ans.
Oui.
Et en fait, là, j'ai quelque chose aussi à annoncer.
Allez-y, on vous écoute, on veut des nouveautés.
oui, absolument. En lien avec, bien sûr, l'exposition immersive, là, S'entendre une nature, mais on va avoir une nouvelle activité. On est connu pour nos géorallies avec GPS.
Oui, on en avait parlé la dernière fois quand vous êtes passé.
Avec les caches, donc ça, les gens adorent ça.
C'est ça.
Et là, on a fait un parcours sur téléphone l'an passé, là, qui s'appelle Vue Québec, incroyable histoire. Donc, au lieu d'être sur un GPS, les gens, ils font toute l'activité sur leur téléphone. Ils doivent trouver des vignettes qu'on a cachées dans le Vue Québec. Et quand ils trouvent la vignette, ils scannent un code QR et ça l'amène justement à un quiz. Et là, on leur raconte des histoires incroyables. Ils doivent répondre à la question pour justement découvrir l'histoire incroyable.
OK.
Donc ça, c'est une activité qu'on a lancée en septembre passé. Et là, en ayant la thématique là, de la vie de nature dans le Québec, on a décidé de faire un deuxième parcours sur téléphone, comme incroyable histoire,
oui.
Mais sur la vie de nature dans le Québec. Donc, en complément, si les gens veulent s'intéresser à venir faire l'expo immersive, en fait, on suggère de faire le parcours sur téléphone, la vie nocturne à Québec. Ça fait une super belle activité à faire après l'exposition immersive. Donc, c'est sur la même thématique.
Oui.
Et ça se passe là, dans le Vieux-Québec, dans le quartier Saint-Roch. Il y a 15 points, 15 vignettes qu'on a cachées.
Oui.
En fait, c'est à partir du 3 juillet, je dois l'annoncer. À partir du 3 juillet.
Le mois, dans un mois. À peu près.
Exactement. Exactement. On lance là, le 3 juillet et à partir de ce moment, les gens peuvent venir à Lio des Palais pour activer l'activité qui est activée. Il est activé pendant 36 heures. Fait que ça, c'est vraiment une activité qui se fait là, sans stress. Là. Donc, les gens peuvent le faire même en soirée s'ils veulent. Ils peuvent venir l'activer pendant la journée et continuer pendant toute la journée.
Oui.
Il y a 36 heures là, qu'ils peuvent faire l'activité. Et ils vont découvrir justement plein de lieux dont on fait mention dans notre expo immersive et qui ont un lien justement avec les bars mythiques du Vieux-Québec. Donc, on va littéralement sur les lieux dans lesquels on mentionne nous, dans notre expo.
C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Tout ça, 100 ans de vie nocturne. Oui, mais c'est vrai. Bon, avant de vous laisser partir, donnez-nous d'abord l'adresse pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, quelles sont les heures d'ouverture? C'est pas tout le temps la même chose. Hein, ouais.
Oui, en fait, on est ouvert là, à partir là, du mardi, donc du mardi au dimanche,
oui.
De 10h à 17h. Donc, les gens peuvent venir là, pour nos expositions, nos activités.
Oui.
On prend pas de réservation, donc les gens se présentent à l'accueil, puis en fait, là, on leur explique les activités, on leur montre comment l'activité, comment les expositions en fait là, se décomposent.
Oui.
Et c'est tout simple que ça. À partir du 21 juin, en plus, on est ouvert tous les jours de 10h à 17h.
Ah.
Donc, je suis à la fin
de l'été. À partir du début du premier jour d'été jusqu'à la fin de l'été.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Et puis, à partir de septembre, on vous revenait de mardi à dimanche de 10h à 17h.
Exactement. Les gens peuvent retrouver toutes les informations sur Îlot des Palais.
Oui.
Donc, Îlot, c'est I-L-O-T. Donc, Îlot des Palais.
Oui.
.ca, tout simplement.
Mm-hmm.
Et toutes les informations sont là-dessus.
Une expérience et des révélations fascinantes vous attendent, chers auditeurs. Merci beaucoup, Marc-Antoine Zellette. Merci beaucoup. N'hésitez pas, n'attendez pas à ce que on vous contacte. Quand il y a des activités, des nouvelles choses comme ça, vous avez les coordonnées de Catherine Bourderon.
Oui.
Voilà,
on vous informe.
Voilà, informez-nous, même si vous ne pouvez pas avoir le temps pour une entrevue, je peux en parler simplement, quoi.
Ben, certainement, ça me fera plaisir de revenir.
Mais c'est toujours un plaisir de vous parler, Marc-Antoine.
Merci, c'est gentil.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Bonne soirée aussi, au revoir.
Au revoir. White, Sugarland, voilà. Voilà, c'est fini. Ah non, j'ai dit merci à Marc-Antoine Lettre qui est venu nous parler de cette histoire de... Voilà, il est adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l'île des Palais. Histoire de bar au Québec, 100 ans de vie nocturne. Voilà, c'est comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez ? C'est si je comprends bien, comme je disais à Nicolas ici, je comprends bien l'histoire d'importance des bars dans la belle province. Ça vient de très loin, cette histoire, entre les Québécois et les bars. Voilà, ça vient de très, 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 très loin. Alors, je reviens sur le sujet que j'ai abordé en première partie d'émission, c'est-à-dire la journée mondiale de l'océan. Oui, et des mers, oui, le 8 juin. Et cette année, le thème, c'est revitaliser les océans par l'action collective, qui est le thème choisi par la journée mondiale des océans de l'année 2022, qui s'inscrit aussi dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, et au cours de laquelle d'ailleurs va se dérouler la conférence sur les océans à Lisbonne du 27 juin oui, au 1er juillet 2022. Il y a tellement d'événements comme ça, je pense bien que les décideurs, les pollueurs ou bien les récalcitrants, parmi les nous, le monsieur, madame, tout le monde qui jette les plastiques n'importe où, n'importe comment, essayons de voir ça. Et j'ai donné quelques chiffres en première partie d'émission. Donc, la cette journée mondiale des océans qui rappelle à chacun que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance, véritable poumon de notre planète. Ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Je le répète. Ils fournissent la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source d'importance de nourriture et de médicaments. Et c'est un élément essentiel de la biosphère, l'écosystème. Ouais. Il est donc important de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'ils occupent dans notre écosystème et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Oui, nos activités. Je ne dirai pas que je ne fais rien. Voilà, je vis sur cette terre aussi, je fais aussi des conneries peut-être. Voilà, on ne sait jamais. Ouais, c'est ça. C'est une manière de dire que on est tous responsables. Donc, on doit être tous conscients, essayer de se remettre en question pour dire qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre planète, nos océans. Donc, cette journée d'aujourd'hui, jeudi 8, veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse. Oui, quand moi je me retrouve au bord de la mer, voilà, c'est beau. C'est les vagues, la brise de mer qui vient te chercher sur les sables chauds et en tenue légère, bien sûr. On ne va pas au bord de la mer tout habillé en pullover ou bien je ne sais quoi. À moins qu'on soit vraiment l'homme le plus frileux au monde. La personne la plus frileuse au monde. Voilà. Quand on va au bord de l'océan, des mers, on est toujours en tenue légère. Et pour avoir la brise de mer sur son corps, ça fait du bien. Donc... c'est un événement hybride d'ailleurs, il y a les gens qui seront super, qui ont été en place au siège de l'ONU là-bas. J'ai vu des images avant de venir en studio, je me suis connecté, je me suis dit « Oh que c'est beau, ce qui est présenté là, oh que c'est beau ». Revitaliser les océans par l'action collective. Voilà, c'est la division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies qui s'occupe de cet événement d'ailleurs, en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Océanique Global. C'est beau tout ça. Voilà. Et je vous le dis, faisons attention. Si vous ne le savez pas, l'océan produit au moins 50% de l'oxygène de la planète. Oui. Nos modes de vie sont associés aux deux tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Des études montrent que des modes de vie et des comportements durables pourraient réduire nos émissions de 40 à 70% d'ici 2050, si on se comporte bien. Arrêtons d'être des voyous sur cette terre. Voilà, je parle de nous tous là. La consommation et la production durable combinées à des approches circulaires peuvent stimuler le développement économique, atténuer le changement climatique, avoir un impact positif sur la santé et la pollution et aider à réduire la pauvreté, augmentant potentiellement les revenus de 11% en moyenne dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici 2060 et 4% dans les pays à revenus élevés. Voilà. Ça, c'est... Nicolas, quand on entend des statistiques, des chiffres comme ça, c'est triste. Pourquoi on se comporte si mal, nous les humains? Pourquoi nous nous comportons comme ça? Parce que c'est, il faut le dire, c'est nous qui foutons tout à l'air. Ces gros navires qui traînent dans les océans, les choses, il y a des gens, même les petits navires, il y a des gens qui finissent leurs canettes et puis jettent à la mer, hein. C'est clair. Les bateaux de croisière, et des bateaux, il y a des bateaux qui font la population d'une ville entière. Oui. Alors on se dit, qu'est-ce que vous voulez? On a beau sensibiliser, il y a des gens qui sont des juments foutistes, se disent. Voilà. Tant mieux si j'arrive à te faire rire. C'est des juments. Oui, je m'en fous. Moi seul, je peux pas sauver la terre. Je peux pas sauver les océans. Je peux rien faire. Voilà. C'est des juments foutistes. Voilà. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. Merci à Marc-Antoine Lettre, qui est adjoint à la direction de la Société du patrimoine urbain de Québec et de l'Île des Palais, qui est venu nous parler des 100 ans de vie nocturne à Québec, histoire de bar. Merci à nos fidèles auditeurs, ou bien à ceux qui viennent de nous découvrir. Et on se retrouve demain. Merci à Catherine Vauderon pour les recherches. On se retrouve demain à la même heure, mais sur les ondes de Canal M, dans le même studio. Et sur ce, prenez soin de vos minutes. Je vous dis ciao.